Aujourd'hui, je vais vous lire « Le yoga et la santé », extrait des œuvres de la mère, Aurobindo. Alors, je commence par le premier texte que mère a écrit, en première page, qui est très beau. « Courage, écoutez la leçon que chaque matin apporte à la terre dans ses premiers rayons, le soleil levant. C'est une leçon d'espérance, un message de consolation. » Vous qui pleurez, vous qui souffrez, vous qui tremblez, n'osant prévoir le terme de vos maux, l'issue de vos douleurs, regardez, il n'y a pas de nuit sans aurore, et l'aube se prépare quand l'ombre s'épaissit. Il n'y a pas de brouillard que le soleil n'efface, pas de nu qu'il ne dort, pas de pleurs qu'il ne sèche un jour, pas d'orage auprès après lequel ne rayonne son arc triomphal. Il n'est de neige qu'il ne fonde, ni d'hiver qu'il ne change en printemps radieux. Si l'épreuve ou la faute t'ont jeté bas, si tu as sombré dans quelque bas-fond de souffrance, ne t'afflige point, car c'est là que pourront t'atteindre la divine tendresse et la suprême bénédiction. Parce que tu as passé au creuset de la douleur purificatrice, à toi les ascensions glorieuses. Alors, je vais vous lire le déséquilibre de l'être, maladie, désharmonie de l'être intérieur. Sri Aurobindo dit « Les maladies se prolongent inutilement et se terminent par la mort plus souvent qu'elle ne devrait, car le mental du malade soutient la maladie du corps et s'apesantit sur elle. » Et j'ajoute, « Toute maladie du corps est toujours l'expression extérieure et la traduction d'un désordre, d'une désharmonie de l'être intérieur, à moins que ce désordre intérieur ne soit guéri. La guérison extérieure ne saurait être complète ni définitive. » Chercher les causes intérieures de la désharmonie, c'est beaucoup plus important que d'en chercher les causes extérieures. C'est l'intérieur qui gouverne l'extérieur. Vous me demandez si votre maladie vient du yoga. D'aucune façon, loin de détériorer la santé, le yoga aide à en bâtir une solide et inaltérable. Rupture d'équilibre. Je vous ai dit l'autre jour que je vous parlerai de la maladie. J'ai pensé aujourd'hui et j'ai pris des notes. Parce que l'on peut me dire qu'il y a des microbes et puis qu'il y a des gens qui ne pensent pas et qui attrapent quand même des maladies. Mais la pensée n'est pas le seul facteur. Il s'en faut beaucoup. Enfin, je vais essayer de vous expliquer maintenant les notes que j'ai prises. Mère regarde un papier. Je vous ai dit d'abord qu'une maladie sans exception, est l'expression d'une rupture d'équilibre. Mais il y a beaucoup de genres de rupture d'équilibre. D'abord, je ne parle pas que du corps. Je ne parle pas des maladies nerveuses du vital, ni des maladies mentales. Nous verrons cela plus tard. Nous parlerons seulement de ce pauvre petit corps. Et je dis que toutes ces maladies, quelles qu'elles soient, j'ajouterai même les accidents, proviennent de ruptures d'équilibre. C'est-à-dire que si tous vos organes, si tous les membres et les parties de votre corps sont en harmonie les uns avec les autres, vous êtes en parfaite santé. Mais n'importe quel petit déséquilibre se produit n'importe où. Et immédiatement, vous avez ou une petite maladie, ou une plus grande maladie, ou une très grosse maladie. Ou bien, il vous arrive un accident. C'est toujours qu'il y a un déséquilibre intérieur. D'abord, au point de vue du corps, le corps tout seul, il y a deux genres de déséquilibre. un déséquilibre fonctionnel et un déséquilibre organique. Je ne sais pas si vous avez fait la différence entre les deux, mais vous avez des organes et puis vous avez toutes les parties de votre corps, les nerfs, les muscles, les os et le reste. Alors si un organe est lui-même en équilibre, c'est-à-dire un équilibre organique, et on vous dit « votre organe est malade », ou bien « il est mal construit », ou bien « il est déformé », ou bien « il lui est arrivé un accident ». Mais c'est l'organe qui est malade. Mais cet organe peut-être est en très bon état. Tous nos organes peuvent être en très bon état. Mais il y a une maladie tout de même parce qu'il ne fonctionne pas convenablement. Il y a un déséquilibre de fonctionnement. Vous pouvez avoir un très bon estomac et puis tout d'un coup il lui arrive quelque chose et il ne fonctionne plus convenablement. Ou votre corps peut-être a quelque chose d'autre et il ne fonctionne plus raisonnablement. Et alors vous avez une maladie par déséquilibre fonctionnel, non par déséquilibre organique. Nous avons dit, vous avez un cerveau, des poumons, un cœur, un estomac, un foie, etc. Si chacun remplit son devoir et marche normalement, et si tout s'accorde pour marcher au moment voulu et de la façon qu'il faut, notez que c'est très compliqué si vous étiez obligé de penser que tout cela, j'ai peur que cela ne marcherait pas tout le temps très très bien. Mais admettez qu'ils soient en bonne harmonie les uns et les autres, de très bons amis, et qu'ils soient tous très bien en accord avec eux-mêmes. Et tout ce monde remplit sa fonction, son mouvement au moment où il faut, en accord avec les autres. Supposez que l'un d'entre eux, pour une raison quelconque, soit de mauvaise humeur. Il ne travaille pas avec l'énergie qu'il faut au moment où il faut. Il fait un peu la grève. Il ne faut pas croire que ce sera seulement lui, un malade. Tout le système va aller de travers. Alors vous sentiez tout à fait mal à l'aise. Mettez par exemple que votre cœur se mette à battre comme un fou. Alors le calme. On lui dit que ce n'est pas une bonne manière d'agir. Et en même temps, on prend de longues respirations rythmiques et très régulières. C'est-à-dire que le poumon devient le mentor du cœur et lui apprend à fonctionner convenablement. Je pourrais vous donner des exemples innombrables. D'après les causes que tu nous as dites, on devrait toujours être malade. Mais dans la vie ordinaire, Mère répond, la plupart du temps, les gens sont presque toujours malades, excepté quelques-uns qui échappent pour des raisons d'un ordre différent que nous expliquerons un jour. Il y a peu de gens qui ne soient pas plus ou moins malades tout le temps. Mais même dans la vie ordinaire, si vous avez au-dedans de vous une confiance, une bonne volonté, une bonne certitude, cette espèce de confiance qu'il y a dedans, comme c'est la majorité des enfants peut-être, mais enfin, il y a une confiance dans la vie. Ils sont petits, ils ont l'impression qu'ils ont toute la vie en face d'eux. Il y a très peu de choses à faire, tout est en avant. Autrement, je ne sais pas. Dans la vie ordinaire, j'ai connu peu de gens qui ne se plaignaient pas d'avoir au moins un petit désagrément physique qu'ils portaient toujours avec eux. Voilà. Alors, maintenant, je vais te lire le secret vers lequel conduit la douleur. Alors, c'est « Aperçu et pensé » de Sri Aurobindo. Par la douleur et le chagrin, la nature rappelle à l'âme que tous les plaisirs dont elle jouit sont seulement un faible reflet de la joie réelle de l'existence. Chaque souffrance, chaque torture de notre être contient le secret d'une flamme d'extase devant laquelle nos plus grandes jouissances sont comme des lueurs vacillantes. C'est ce secret qui fait l'attraction de l'âme pour les grandes épreuves, pour les souffrances et les expériences terribles de la vie, alors même que notre mental nerveux les abomine et les fuit. Alors Mère commente, « Tout naturellement, nous nous demandons quel est ce secret vers lequel conduit la douleur. Par une compréhension superficielle et incomplète, on pourrait croire que c'est la douleur que l'âme recherche. Il n'en est rien. La nature même de l'âme est la joie divine, constante, invariable, inconditionnée, extatique. Mais il est vrai que l'on peut faire face avec courage, endurance, une foi inébranlable en la grâce divine, si l'on peut, au lieu de fuir la souffrance quand elle vient à vous, entrer en elle avec cette volonté, cette aspiration de passer à travers elle pour trouver la vérité lumineuse, la joie invariable qui est au fond de toute chose. La porte de la douleur est souvent plus directe, plus immédiate que celle de la satisfaction ou du contentement. Je ne parle pas du plaisir parce que lui, il tourne le dos d'une façon constante et presque totale à la joie divine profonde. Le plaisir est un déguisement trompeur et pervers qui nous détourne de notre but et que nous ne devons certainement pas rechercher si nous avons hâte de trouver la vérité. Le plaisir nous évapore, il nous trompe, il nous égare. La douleur nous ramène à une vérité plus profonde, en nous obligeant à nous concentrer pour pouvoir endurer, pour pouvoir faire face à cette chose qui broie. C'est dans la douleur que l'on retrouve le plus facilement la vraie force lorsqu'on est fort. C'est dans la douleur que l'on retrouve le plus facilement la vraie foi, celle en quelque chose qui est au-delà, par-dessus toute douleur. Quand on s'amuse et qu'on oublie, quand on prend les choses comme elles viennent, quand on cherche à éviter d'être grave, de regarder la vie en face, en un mot, quand on cherche à oublier qu'il y a un problème à résoudre, qu'il y a quelque chose à trouver, que nous avons une raison d'être et de vivre, que nous sommes ici pas juste pour passer notre temps ou pour nous en aller sans avoir appris ni rien fait. Alors, on perd vraiment son temps. On perd l'occasion qui nous est donnée. Cette occasion, je ne peux pas dire unique, mais merveilleuse, d'une existence qui est le lieu du progrès, qui est le moment de l'éternité, où vous pouvez découvrir le secret de la vie. Car l'existence physique, matérielle, est une occasion merveilleuse, une possibilité qui vous est donnée de trouver la raison d'être de la vie, pour vous faire avancer d'un pas vers une vérité profonde. Pour vous faire découvrir ce secret que vous avez en contact avec l'extase éternelle de la vie divine. Je vous ai dit bien des fois que de rechercher la souffrance et la douleur est une attitude morbide qu'il faut éviter. Mais au lieu de fuir devant elle par l'oubli, par un mouvement superficiel, léger, par un divertissement, est une lâcheté. Quand la douleur vient, c'est pour nous apprendre quelque chose. Plus vite nous l'apprenons, plus le besoin de la douleur diminue. Quand nous saurons le secret, il ne nous sera plus possible de souffrir, car ce secret-là nous révèle la raison, la cause, l'origine de la souffrance et le moyen de passer au-delà. Le secret, c'est d'émerger de l'ego, de sortir de sa prison, de nous unir au divin, de nous fondre en lui, de nous permettre de ne rien permettre de nous séparer de lui. Alors une fois que l'on a découvert ce secret, qu'on le réalise dans son être, la douleur a perdu sa raison d'être et la souffrance disparaît. C'est un remède très puissant, tout puissant, non seulement dans les parties les plus profondes de l'être, dans l'âme, dans la conscience spirituelle, mais aussi dans la vie et dans le corps. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de désordre qui puisse résister à la découverte de ce secret et à sa mise en pratique, non seulement dans les parties supérieures de l'être, mais dans toutes les cellules de notre corps. Si l'on sait leur apprendre la splendeur qui est au-dedans d'elles, si l'on sait leur apprendre la splendeur qui est au-dedans d'elles, si l'on sait leur faire comprendre la réalité qui les fait être, qui leur donne l'existence, alors elles aussi, elles entrent dans l'harmonie totale et le désordre physique qui produit la maladie s'évanouit comme tous les autres désordres de l'être. Mais pour cela, il ne faut être ni lâche ni craintif. Quand le désordre physique vient sur vous, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas le fuir. Il faut lui faire face avec courage, tranquillité, confiance, certitude, que la maladie est un mensonge et une illusion, et que l'on se tourne entièrement et en pleine confiance et en une complète tranquillité vers la grâce divine. Elle s'installera dans ses cellules comme elle s'installe dans les profondeurs de l'être, et les cellules elles-mêmes participeront à la vérité et à la joie éternel, le 13 février 1957, Mère. Voilà, Mère, je dépose tout cela à tes pieds et à celle de Sri Aurobindo. Gangalakshmi.